Vous écoutez RTL.
Bonne soirée en compagnie d'RTL.
On a tellement de choses à se dire. RTL, en direct de l'équipe.
Éric Silvestro.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches pour RTL en direct de l'équipe, votre rendez-vous Omnisport sur la première radio de France. Pas de foot ce soir, pas de soir de Ligue 1, nous sommes ensemble donc uniquement jusqu'à 20h. Mais ballon rond, Sylvain Charlet, on va en parler avec évidemment Francis Land demain sur RTL et sur M6.
On réussit toujours à parler de ballon rond, même quand on ne joue pas, on est trop fort.
Francis Land, les dernières infos avec Philippe Sanfourche qui suit les Bleus au quotidien. Entretien également avec N'Golo Kanté, le milieu défensif de l'équipe de France. Ensuite, nous tâcherons de joindre Julien Alaphilippe, le héros du week-end. Lui, le vainqueur de Milan-San Remo, il est sur les routes actuellement. Il devrait être notre invité avec Laurent Jalabert dans RTL en direct d'équipe. On croise les doigts.
Téléphone dans le bus, c'est ça l'idée?
Téléphone dans le bus, sur les routes. Bon, allez, ça va le faire.
On aime le risque, on aime le
choix. Ça va le faire, on prend le risque de l'avoir avec nous, le héros du week-end. On parlera des autres très beaux champions du week-end parce qu'il y a de belles choses, notamment Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis, champion du monde en danse sur glace. Le top d'éclat, le meilleur des petites phrases, et puis on terminera avec la belle histoire.
On va parler de skateboard, un sport qui sera à la une lors des Jeux de 2020-2024, mais c'est un peu un sport compliqué pour ces Français qui cherchent à faire des médailles. C'est galère au quotidien.
En fin d'émission.
RTL en direct de l'équipe avec Éric Silvestro.
Pogba, la fin de frappe, le petit ballon.
Rizou.
Pour Rizou, oh, oui. Quel but d'Antoine Griezmann.
Ça sera fini. Oh, le but. Qu'est-ce que c'est que ce but, Blaisou?
Beaucoup d'applications, je pense beaucoup de plaisir. C'est plutôt un match bien abouti, même si il faut savoir relativiser par rapport au niveau de l'adversaire.
La France a réussi son entrée dans les qualifications de l'Euro 2020 en battant la Moldavie 4-1. Rendez-vous demain au Stade de France pour l'Islande. Philippe Sanfourche, notre team leader de l'équipe de France, est avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous.
Bon, pas de mauvaises nouvelles pour le groupe?
Non, on va s'en tenir déjà au forfait acté. Il y en a déjà deux, c'est déjà pas mal. Et Didier Deschamps n'a pas rappelé d'autres joueurs pour suppléer donc les absences de Lucas Digne et de Kingsley Coman qui seront donc forfaits pour ce deuxième match. Il était déjà pour la Moldavie, ils le seront pour l'Islande. Du coup, on s'attend à assez peu de changements demain soir parce que c'est un match qui est très important. C'est déjà un petit sommet de groupe face à l'Islande qui a remporté son premier match. Et puis, y a des joueurs qui donnent satisfaction. On a vu que les entrants n'étaient pas forcément exceptionnels, que ce soit du côté de Thauvin ou de Fekir. Lemar un petit peu mieux avec une passe décisive. Mais finalement, assez peu d'interrogations. Peut-être en charnière centrale, est-ce que Presnel Kimpembe va prendre le poste aux côtés de Raphaël Varane à la place de Samuel Umtiti? Je vous propose d'écouter Didier Deschamps, c'était il y a quelques instants au Stade de France. Il se laisse encore un petit peu de temps pour décider.
Je prendrai le temps de décider dans la soirée, d'avoir son ressenti et puis voir après par rapport à ce que je peux faire. L'envie, ils l'ont tous de vouloir jouer, de pouvoir enchaîner, même si ça reste un match de 90 minutes. Ça n'a pas été sur le plan athlétique le match de vendredi. On n'a pas puisé dans les organismes, comme on dit, quoi. Donc il faut voir, il y a la récupération, aujourd'hui l'entraînement et je déciderai après.
Alors l'entraînement, il est en train de se faire. Didier Deschamps va prendre sa décision. Sachez qu'il est venu, lui et Hugo Lloris, avec le maillot. Vous savez qu'on verra demain le maillot du centenaire.
Vintage.
Celui-là, il est bien en boutique. Hein, si vous voulez l'acheter,
s'il a un maillot de 2 étoiles, je suis preneur. Hein.
Voilà, celui-là, il est là. Et il y aura une grande bâche. Enfin voilà, c'est le début des festivités pour le centenaire de la Fédération.
Vous avez parlé d'une équipe qui ne bougera pas beaucoup. Le taulier au milieu de terrain, il y a Paul Pogba évidemment, mais à ses côtés, N'Golo Kanté.
Oui, N'Golo Kanté, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer. C'est très rare, hein, N'Golo Kanté. C'est presque plus facile de parler avec Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. N'Golo Kanté, il aime pas ça, les micros, les caméras. On a quand même réussi à l'avoir quelques minutes au sortir du match contre la Moldavie. Entretien pour M6 et RTL. Je vous propose de l'écouter, le très timide, mais toujours aussi adorable, N'Golo Kanté. Bonsoir, N'Golo Kanté.
Bonsoir.
C'est formidable de retrouver cette équipe de France dans un parcours de qualification pour une grande compétition et ça démarre par une victoire. J'imagine qu'il y a du soulagement.
Oui, c'est toujours bien de se retrouver de la meilleure des manières. On est content de se revoir et c'est toujours bien de commencer par une victoire. Non, on savait que ça allait être compliqué, mais on a bien répondu, on a patienté, on a su faire la différence et on a su assurer la victoire.
Au-delà de la victoire, il y a le fait de retrouver cette équipe de France. Ça faisait 4 mois que vous étiez retournés chacun dans vos clubs. C'est toujours le même plaisir d'être ensemble, d'être en famille.
Ouais, c'est toujours un plaisir de se retrouver. On a passé des moments inoubliables cet été. Et se retrouver, défendre les couleurs du maillot, c'est toujours un honneur. Et on donne le maximum et on est content de se retrouver dans la victoire. Tous nos parcours individuels en club, certains avec des bons passages, d'autres avec des passages plus compliqués. Mais se retrouver en équipe de France, c'est différent et c'est toujours un plaisir de se retrouver et de jouer pour le maillot bleu.
Est-ce que vous ressentez toujours cet amour du public français ? Je sais qu'il y a encore une étude qui a montré que vous étiez avec Kylian Mbappé, une des personnalités préférées, notamment des jeunes. Ça vous touche, ça ?
Oui, ça me touche. En tout cas, je ne sais pas tout ce qui se passe sur les réseaux et dans les sondages. Mais quand je reviens en France, j'ai toujours pas mal de remarques des personnes qui nous disent que... Voilà, que ils ont vécu un bon moment à travers la Coupe du Monde et qu'ils sont derrière les Bleus et ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de discours.
Du coup, quand vous voyez vos coéquipiers qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, vous avez toujours ce calme un petit peu à côté. Vous les regardez comment, d'un œil amusé ou simplement c'est parce que c'est pas votre truc ?
Non, aujourd'hui ça fait partie du football. C'est un moyen de partager, on va dire, notre vie de footballeur avec les fans. Et voilà, chacun utilise les réseaux sociaux comme il le sent et on peut voir de tout.
Et sur le plan personnel, votre avenir, c'est pareil. Là, si on regarde les réseaux sociaux, mais aussi la presse, il y a énormément de choses qui se racontent sur votre avenir. Les plus grands clubs vous veulent en permanence, que ce soit le Real, que ce soit le PSG. C'est facile de rester imperméable à ça ?
Oui, c'est simple, parce qu'aujourd'hui, je suis à Chelsea. On a encore beaucoup de matchs pour atteindre nos objectifs et je me concentre là-dessus et après... Ce qui se dit ailleurs, c'est pas important.
Même si Zidane vous appelle pour vous dire j'ai besoin de vous ?
Non, c'est pas important. Aujourd'hui, je suis à Chelsea et je suis focus là-dessus.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir ?
Non, on peut me souhaiter voilà, de la réussite en club, atteindre nos objectifs. On essaie de se qualifier pour la Ligue des Champions, soit par le championnat ou avec l'Europa League, et continuer avec l'équipe de France de se qualifier le plus rapidement possible. Éviter les blessures et beaucoup de réussite, j'espère.
Il reste un match contre l'Islande dans ce rassemblement. Ce sera forcément un ton au-dessus sur le plan physique, sur le plan du jeu. L'Islande qui a gagné aussi, c'est déjà un petit sommet dans ce groupe lundi.
Ouais, bien sûr, démarrer, c'est toujours important. Contre l'Islande, ce sera important de gagner pour continuer et essayer de se qualifier le plus rapidement possible.
Vous vous sentez prêt sur le plan physique, notamment, à pouvoir réenchaîner, vous, à titre personnel, sur ces matchs ?
Je pense qu'on va adapter les entraînements et on fera en sorte d'être prêt.
Merci beaucoup, N'Golo Kanté.
Merci.
N'Golo Kanté, il est toujours prêt à enchaîner, N'Golo Kanté. C'est pas la peine que Zizou l'appelle, hein, j'ai bien compris, il répondra pas. Il répond qu'à Sarri pour l'instant,
non,
à l'entraîneur de Chelsea.
Ici,
France-Islande, qu'on envoie 20h45 demain. Oui. 20h, 23h sur RTL.
On sera là avec Lisa.
Avec Bichente, Lisa Razou, qui sera là pendant toute l'émission.
Ah oui. Ça, c'est cadeau.
Voilà. On pourrait l'appeler, évidemment, pour dialoguer lui, notamment après la rencontre France-Islande à ne pas manquer sur RTL.
RTL en direct de l'équipe avec Eric Silvestro.
Alors, il y a du foot dans la vie, Sylvain, mais pas que. Les résultats de la planète sport avec toi.
Et le top 14 qui était marqué par une très belle affiche cet après-midi. Tout à l'heure, on aura La Rochelle-Toulouse à 21h, mais cet après-midi, le Racing à domicile a dominé Bègle-Bordeaux. Bordeaux-Bègle 45-27. Pourtant, les Bordelais ont mené 20-27 et le Racing rejoint, grâce à cette victoire bonifiée, Lyon à la 3e place avec 56 points. Devant, on a Clermont 69 points et premier, donc Toulouse 72 points. Les handballeuses françaises, championnes d'Europe en titre, défient en ce moment la Norvège à Boulazac, deuxième match de la Golden League. Et pour l'instant, c'est compliqué pour les Françaises qui sont menées 23-22. Et puis un mot d'équitation avec le Français, le cavalier Simon Delestre, qui double la mise puisqu'il s'est imposé sur Hermès Ryan, son cheval, cet après-midi à Paris, sous la verrière du Grand Palais, lors du saut Hermès. Deuxième succès donc en 2 ans dans ce Grand Prix 5 étoiles.
Félicitations à lui. On marque une courte pause et ensuite, direction l'Espagne, pour retrouver Julien Alaphilippe, notre cycliste vainqueur du Milan-Sanremo.
RTL en direct de l'équipe.
Éric Silvestro.
Julien Alaphilippe toujours en tête, Dyson derrière. Est-ce qu'on va avoir une victoire française? Dyson qui essaie de remonter bien dans Julien Alaphilippe qui s'impose. Et bien voilà la victoire de Julien Alaphilippe devant Oliver Dyson. Et je pense
que Milan-Sanremo, Name Sport, un corridore francese de la De Koenig Quick Step. Applausi per Julien
Je suis heureux, je suis surpris, j'en reviens même pas, mais c'est jamais évident d'être l'ultra favori d'une course et encore plus sur un monument. Mais alors là, j'ai répondu de la meilleure des manières et j'ai réalisé le plus beau début de saison de ma carrière. Forcément, j'ai pas envie de m'arrêter là et j'ai encore plein de belles choses à faire cette année, mais là, c'est l'heure de récupérer un peu.
Ah oh, Sylvain, j'en ai encore des frissons. C'était l'émotion du week-end, ce Milan San Remo, cette victoire de Julian Alaphilippe. Hier, on l'a vécu en direct sur la chaîne L'Équipe. Quand j'entends en plus le speaker italien Mon Pays qui dit Julian, comme ça, applause hyper Julian Alaphilippe. J'imagine trop San Remo, la mer Méditerranée, le soleil et tout, c'était magnifique. Il est avec nous, le héros du week-end, Julian Alaphilippe. Bonsoir Julian.
Oui, bonsoir à tous.
Bon, il est descendu du vélo, il est monté dans le bus pour rentrer Barcelone-Andorre, c'est ça, vous êtes sur la route?
Oui, je suis sur la route d'ailleurs, désolé si ça coupe.
Le réseau,
c'est pas top.
Non, mais c'est très bien comme ça. Laurent Jalabert est évidemment avec nous, vous l'avez entendu aussi hier. Salut Laurent.
Bonsoir à tous.
Ah, on a encore plein de frissons avec cette belle victoire d'hier, ce premier monument.
Oui, c'était juste magique. Il était attendu, Julien, et on était là, bien sûr, pour voir son exploit. On rêvait de le voir franchir la ligne en vainqueur et il a déçu personne. Il a été juste impérial. Et c'est vraiment son année. Voilà, on sent qu'il a franchi encore un cap. Et à travers lui, moi, j'ai revécu des moments forts de ma carrière. Donc, c'était vraiment une très, très belle journée.
Alors, il est avec toi, Julien, Laurent. Raconte-lui, justement. Ouais. Parlez-vous, c'est quoi ces moments que tu as revécu?
Alors, mais écoute, moi j'étais comme lui en 1995, après avoir gagné Paris-Nice, favori de Milan San Remo. Et voilà, la sortie dans le podium. Au moment où il a attaqué, on est sorti avec Sandri Est. Et voilà, lever les bras sur la Via Roma pour célébrer une victoire dans cette classique, je sais ce que ça représente. J'en ai pas dormi la nuit, donc je sais pas, Julien, si ça t'a perturbé également au niveau du sommeil.
Ah, c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi encore aussi cette nuit, mais non, c'est une immense joie, forcément. La journée d'hier, là, c'était juste incroyable. Difficile de faire mieux. Je rêvais de gagner, mais alors de cette manière-là, avec les mecs avec qui j'étais, c'est vrai que. Après le gros travail de toute mon équipe toute la journée, c'était difficile de faire mieux que ce que j'ai fait. Donc je suis super fier de ce que j'ai fait, super fier de l'équipe et super fier de cette nouvelle victoire qui est vraiment spéciale, quoi.
Julian, tu n'as pas beaucoup dormi aussi parce que apparemment Peter Sagan il avait annoncé que voilà Julian Alaphilippe de l'apéro à Monaco.
Apéro
et tout,
à Monaco.
La
course. Ouais.
Non, on a fait un petit repas sympa avec le staff de mon équipe et quelques équipiers. Quand on gagne, c'est toujours sympa, mais un monument comme ça, il faut le savourer, il faut en profiter, il faut aussi le fêter. Donc ça marque aussi la fin d'un cycle intense pour moi, là, avec toutes les courses en Italie. Donc je suis content de pouvoir récupérer et je suis aussi content d'avoir fêté ça avec mon équipe.
Julian est l'homme qui a le plus gagné en ce début de saison. 7 succès depuis le début de la saison. Laurent, ce que je trouve génial, c'est ce fameux cocorico, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a Romain Bardet, par exemple, on a Thibaut Pinot et on a Julian Alaphilippe dans un autre style. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un cador. C'est un cador au même titre, je pense on en a parlé à l'instant, de Peter Sagan. Voilà. C'est le top du top aujourd'hui, Julian.
Oui, c'est le top du top, mais il n'est pas sorti du chapeau. Hein. C'est un cador qui s'est construit année après année. Il a gagné en maturité, il a surtout gagné en confiance et en assurance. Du coup, il prend les bonnes décisions au moment juste et ça se concrétise par des victoires et des victoires de prestige. Donc la série est en cours. Je ne sais pas quelle sera la prochaine, mais elle sera forcément belle aussi.
Non, c'est gentil, merci. Non, mais c'est sûr que voilà, c'est le but dans une carrière, hein, d'évoluer, de progresser, de gagner des courses de plus en plus belles. Et comme l'a dit Laurent, ça tombe pas du ciel. J'ai emmagasiné beaucoup d'expérience et voilà, j'ai appris de toutes mes erreurs, de mes déceptions et forcément, voilà, d'enchaîner les victoires comme ça, c'est la récompense de mon travail et de tout ce qui s'est passé avant, quoi.
Julian, comment garder ce punch qui vous caractérise et qui est génial et qui en plus va évidemment plaire au grand public, tout en, comme vous le dites, en emmagasinant de l'expérience, de la maturité, de plus faire peut-être des erreurs de jeunesse, d'attaquer à tout va, peut-être à des endroits où il fallait pas, parce qu'on a envie de bien faire. Voilà, il faut garder un compromis entre les deux.
Ouais, ouais, sûr. Pour l'instant, voilà, je suis dans ma quête.
On perd un peu Julian Alaphilippe sur la route d'Andorre.
La
quête aux victoires, Laurent Jalabert, c'est évidemment, on pense au classique, hein, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne qu'il a déjà gagné, un championnat du monde, pourquoi pas aussi, plus que des courses à étapes pour l'instant.
Mais parce que ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, Julian, Laurent, c'est pas un grand grimpeur. Moi, je trouve ça rassurant dans le profil actuel. Oui, il s'est grimpé, mais je veux dire, quand ça va très très haut, ça devient un peu compliqué pour lui, même s'il a été meilleur grimpeur du tour.
Oui, il a gagné deux belles étapes de montagne sur le tour, le maillot à poids, donc il sait maîtriser la montagne quand il est en forme. Alors c'est sûr, peut-être pas en faisant la bagarre sur le tour avec les meilleurs grimpeurs,
Mais peut-être que la prochaine étape, c'est gagner des courses à étapes du World Tour.
Comme Paris-Nice, par exemple.
Oui, mais en Paris-Nice, ça aurait de la gueule dans son palmarès. Il en a tout à fait les capacités. Et pourquoi pas un grand tour, comme j'ai pu le faire aussi sur un Tour d'Espagne, par exemple. Je pense qu'il... Voilà, on n'est pas sur le Tour, là. C'est pas les mêmes difficultés. C'est des montées sèches qui lui correspondent peut-être davantage.
Il est sur les routes espagnoles. On va voir si on l'a récupéré, Julien Alaphilippe. Le Tour d'Espagne, Julien, est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Laurent?
Oui, j'ai entendu. Non, mais forcément, oui, ça peut faire partie de... Et ça fera certainement partie de mes objectifs à plus long terme dans ma carrière. Mais pour l'instant, je ne suis pas focalisé là-dessus. Le Tour de France, ce n'est pas ma priorité dans ma saison. Forcément, les gens parlent beaucoup du Tour parce que c'est la plus grande course du monde, c'est la plus médiatisée. C'est vrai que c'est la plus importante aussi. Mais je vise tellement d'autres choses que, en fait, ça vient après, quoi. Là, pour moi, le début de saison, l'Estrade Bianche, Milan-San Remo, c'était beaucoup plus important même que les classiques ardennaises et que le Tour de France. Donc, je me fixe beaucoup d'objectifs et quand ça marche, c'est super, mais le Tour, ça arrive après, quoi.
Mais le Tour de France, alors oui, c'est vrai que ça fait rêver tout le monde. Tu veux faire un podium, tu veux porter le maillot jaune. Mais moi, Julien, il m'a fait vibrer sur le Tour de France. Quand il porte ce maillot, quand il va chercher les victoires d'étape. Et moi, je trouve que c'est tout aussi important que de faire un top 10 sur le Tour. Parce que tu peux faire un top 10 sur le Tour et à aucun moment, tu vas faire vibrer le téléspectateur et le spectateur. Donc moi, ce qu'il a déjà fait sur le Tour de France, je trouve ça énorme, Julien.
C'est comme ça que j'aime le vélo. C'est comme ça que j'aime ce que je fais. Et pour moi, je prends beaucoup, beaucoup plus de plaisir à aller chercher, à essayer d'aller chercher des victoires et à faire des numéros. Avec panache que de faire une course d'attente. Exactement. Et de viser un top 10 du classement général. Franchement, je sais que je serais beaucoup moins épanoui dans ce rôle-là, quoi.
Bon, nous, le panache, on adore. Là, il y a quelques jours de repos quand même, Julien, ou tu as déjà hâte de t'y remettre pour les prochaines classiques?
Non, forcément, j'ai déjà des objectifs qui vont arriver vite, mais la priorité, c'est de récupérer parce que j'ai pas arrêté depuis le début de saison. Ça a été très intense, surtout le bloc en Italie, là. Et là, je suis content de poser un peu les valises.
Eh bien, merci d'en avoir partagé encore un petit peu de ces émotions avec nous, Julien Alaphilippe. Bon retour, bon repos.
C'est Laurent Jalabert qui prend le relais.
Ouais,
il a fait un peu de vélo aujourd'hui.
4 heures de vélo aujourd'hui, Laurent Jalabert. Même le dimanche.
C'est la faute à Julien, enfin, il m'a motivé. Donc.
Il a mis la misère à tout le monde, Laurent Jalabert, aujourd'hui. Tous ceux qui voulaient faire la sortie avec lui tranquille.
Même au vent, même
dit,
le vent.
Non, là, face au vent, j'y vais, je fonce.
C'est pas bien de se moquer, c'est pas bien.
Messieurs, vous êtes nos champions. Respect. Et nous, on est admiratifs, on est ravis de vous avoir eu avec nous, Laurent Jalabert, Julien Alaphilippe. Bonne route, Julien, à très bientôt pour de nouveaux exploits.
Merci beaucoup.
Merci Laurent, et bon canapé pour finir la journée, Laurent.
Merci.
Allez, bonne soirée à tous. Salut à tous.
Éric Silvestro, en direct de l'équipe sur RTL.
Ah oui, Julien Alaphilippe, notre héros du week-end. Mais il y en a d'autres, Sylvain. On va inaugurer un nouveau petit rendez-vous. Tiens, les tops et les flops du week-end ou de la fin de semaine dans RTL en direct de l'équipe.
Si vous avez déconnecté complètement ce week-end.
Ah oui, si vous êtes coupé, si vous êtes parti à la campagne ou quoi. Alors, on va commencer par le patinage.
Avec cette musique. Alors, on se détend. C'est la musique d'un des programmes de Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis. Quatrième titre mondial pour notre couple de danseurs sur glace. Un titre conquis hier matin au Japon. C'est leur 11e médaille internationale, on l'a dit. Quatrième titre mondial. Ils avaient récolté l'argent au JO. Et a priori, ils peuvent durer, puisque Guillaume n'a que 24 ans et Gabriela 23 ans. Écoutez Guillaume d'ailleurs hier matin après cette victoire.
On est vraiment très très satisfait de notre performance. On a bien patiné nos deux programmes hier comme aujourd'hui. Je pense qu'on a été assez propre techniquement. Il y a eu 2-3 petites erreurs par là, mais globalement très bien. On a pris du plaisir et on a atteint notre objectif. Donc voilà, on ne pourrait pas être plus heureux aujourd'hui.
Nouveau record de points d'ailleurs à attribuer sur le programme libre de ces championnats du monde. Voilà le couple Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, intouchables pour l'instant sur la glace. Ils sont vraiment au-dessus des autres et ce n'est pas pour nous déplaire, eux qui ont tant de grâce. Il y en a un autre qui est au-dessus des autres.
Ah, oui.
Lui, c'est pas sur la glace, c'est sur la neige et c'est sur le ski. Et avec la carabine en main, c'est Johannes Bø.
Johannes Bø, 25 ans, le Norvégien battu ce week-end en fait le record de victoire en Coupe du Monde de biathlon. On attendait Martin Fourcade, mais Martin Fourcade vit une saison galère. On espère qu'il retrouvera son meilleur niveau la saison dernière. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Martin a écrasé la discipline entre 2012 et 2018 et qu'il avait établi un record de victoires en Coupe du Monde de 14 succès. Eh bien, Johannes Bø, ce week-end, l'a explosé ce week-end. Il en est à 16 victoires. Il s'est imposé à 3 reprises ce week-end chez lui. À Oslo, il a remporté la Mastart cet après-midi, le départ groupé et ambiance là, vous êtes sur le pas de tir et vous êtes juste derrière Johannes Bø et il s'apprête à tirer. La respiration.
C'est Lucky Luke, là.
20 sur 20. 20 sur 20 cet après-midi lors
c'est
de la
Masters. C'est rare parce qu'il fait souvent des erreurs au tir, mais là, il était tellement sur la lancée de ces championnats du monde, il s'est régalé. Un petit flop aussi, on va parler d'un petit flop, il concerne le basket NBA, et une des plus grandes stars du basket NBA, ouais, LeBron James.
Puisque LeBron James ne participera pas aux playoffs, il faut savoir que c'est la première fois dans la carrière du roi américain depuis 2005 qu'il ne participera pas aux playoffs. Pourquoi ? Parce que l'été dernier, il a changé de club, il est arrivé aux Lakers, une franchise emblématique, mais qui n'a pas participé aux playoffs depuis 6 ans, et notre ami LeBron James restait quand même sur une participation aux 8 dernières finales avec Miami et Cleveland. Il va donc prendre un petit peu de vacances en espérant pouvoir porter la saison prochaine cette équipe des Lakers au moins jusqu'en play-off.
Ouais, il y a eu une blessure pour lui cette saison qui a précipité 18 matchs difficiles pour les Lakers. Il y a aussi Anthony Davis qui n'est pas arrivé lors du mercato. Il voulait faire un gros coup le joueur des Pelicans, tu vois. Ouais, je me suis renseigné. Hein. Je fais un peu de basket dans ma jeunesse. Ça me manque un peu.
Je constate.
J'étais plutôt Michael Jordan et Chicago Bulls, moi. Tu vois, il y a Magic Johnson avec les Lakers.
Tu as brillé sur les monégasque.
Tiens, Michael Jordan, que LeBron James a dépassé en termes de marqueur NBA.
Et ben voilà, il est désormais supplémentaire.
Quatrième marqueur de l'histoire de la NBA.
Est-ce qu'il est plus fort que Martin Fourcade
sur les skis, c'est plutôt Johannes Beu ce week-end. Bon, merci pour ces tops et ces flops du week-end avec Sylvain Charlet. On marque une courte pause. Tiens, il nous reste le top d'éclat aussi, petites phrases juste après.
Éric Silvestro, en direct de l'équipe sur RTL.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h ce soir avant de passer la main à Éric Jean-Jean pour la musique, puisqu'il n'y a pas de Ligue 1, pas de foot. On se retrouve demain pour France-Islande, 20h-23h avec Bichente, Lisa Razou sur la première à 2 de France et sur M6. Le top des classes, Sylvain, le meilleur des petites phrases du monde du sport avec un colosse qui revient aux affaires.
La voix d'un comeback, celle de Florent Manaudou, qui après une pause de 3 ans a décidé de se lancer dans le challenge des JO de 2020. On rappelle qu'il avait été champion olympique 2012 du 50 mètres libre et il s'est confié à nos confrères de l'équipe.
J'avais envie de recommencer à être le chasseur et pas le chassé, parce que c'est quelque chose de plus excitant pour moi. Je me suis éclaté au hand, je me suis éclaté à faire un peu de cinéma, je me suis éclaté à faire plein de choses que j'avais envie de faire. Le vrai déclic, il a eu lieu en décembre, je pense. Après, je disais plus jamais ça, parce que si jamais je dis « ouais, peut-être », on m'embête tout le temps, donc je préfère dire plus jamais et après revenir. Je préfère être dans la tranquillité, donc j'avais fait ce choix de dire plus jamais, même si ça restait un peu dans un coin de ma tête. Je crois que j'ai jamais signé de lettre de retraite d'ailleurs.
Voilà, Florent Manaudou qui va replonger dans les bassins. Il y en a un qui veut remonter sur les rings bientôt. C'est Tony Yoka quand sa suspension sera terminée, mais c'est compliqué.
Mais il est en galère pour organiser un combat, puisque même le champion de France a refusé l'offre du camp Yoka.
C'est compliqué de trouver un adversaire crédible parce qu'il. On va dire qu'ils se cachent tous, mais bon, ils trouvent tous des raisons et au final. Ben voilà, on donne pas au public ce qu'il veut, quoi. C'est bon, moi j'ai hâte de boxer, hein. Je boxe dans 3 mois et demi maintenant, donc là je vais repartir mercredi aux États-Unis et puis on va rentrer dans la phase d'entraînement intensif.
Voilà pour Tony et Yoka qui attend donc son retour aux affaires sur les rings. Nous on peut pas y aller, hein. On n'a pas le niveau.
Non, je suis
désolé Tony, mais on refuse aussi comme les autres, on se cache. On viendra voir, tendre le micro de RTL pour ton retour sur les rings.
RTL, en direct de l'équipe.
Éric Silvestro.
Sylvain, on termine comme tous les dimanches, RTL en direct de l'équipe, avec la belle histoire. On va parler skateboard. Alors, je ne sais pas si on va prendre un coup de jeune, un coup de vieux ou les deux en même temps. Mais voilà, le skate revient
jeune.
En force. Le coup de jeune.
Je sais qu'on brille, toi et moi, sur les skateboards.
Moi, je ne brillais pas quand j'étais jeune sur les skateboards. Et depuis, je ne suis jamais plus monté dessus.
Alors, c'est un sport qui était à la une ces jours-ci dans le quotidien L'Équipe, notre quotidien préféré. C'est un sport qui sera présent aux Jeux de 2020 et a priori qui sera présent également aux Jeux de 2024. Et elle brille sur les skates. Rachel Préti est avec nous du journal L'Équipe. Salut Rachel.
Salut, j'aimerais bien briller sur les skates, hein, mais moi aussi ça fait un petit moment que je m'y suis pas remise. Mais ça sera peut-être l'occasion.
J'ai pas encore vu la vidéo de Rachel sur l'équipe.fr, mais j'attends avec impatience.
Et ça peut fonctionner, parce que sur les réseaux sociaux, le monde du skate, eh bien, il a son univers. Et d'ailleurs, dans cet univers, dans ce papier, tu mets en avant, Rachel, une Française qui est la championne de France de la discipline, Charlotte Im, championne de France en street. Attention, parce que j'imagine différentes configurations, différentes compétitions. Elle a une histoire très particulière parce que, comme pour beaucoup, c'est compliqué de vivre de son sport.
Exactement. Et d'après ce que j'ai compris, c'est aussi difficile pour les filles qui sont un peu moins médiatisées que les garçons, mais ça va changer, notamment grâce aux jeux. Et donc Charlotte fait une thèse en fait de sciences cognitives sur l'importance de l'odeur et de la voix pour les jeunes enfants, de la voix et l'odeur maternelle. Donc c'est vraiment
rien à voir avec le skate. Ouais.
Non, rien du tout, mais c'est vraiment une tête. Et donc, grâce à son, grâce à sa thèse, elle était payée comme une chercheuse. Et là, elle va essayer de se consacrer pleinement à la préparation des Jeux, parce qu'on ne sait pas encore si elle est qualifiée. Il y a plusieurs épreuves pour avoir la tête un peu libérée. Elle va essayer de finir sa thèse, là. Et puis, elle va se mettre à la préparation.
Et le skate, c'est quoi alors du coup? C'est pour se vider la tête? C'est le plaisir justement en dehors de ce travail de recherche?
Elle nous disait qu'elle avait, ça faisait très très longtemps qu'elle avait pas fait un trajet à pied en fait. C'est une façon de vivre, c'est une façon de se déplacer. Elle est tout le temps en place de l'arrêt où elle skate avec des.
Place de la République à Paris, c'est ça?
Exactement, place de la République à Paris.
Ah ben alors moi maintenant, la prochaine fois que je vais y aller, je vais dire non, mais je vais aux places de l'arrêt.
Place de l'arrêt.
Ouais, moi je parle comme les skateurs.
Et je marche pas.
Moi, tu vas peut-être la croiser.
Ce soir, je vais manger place de l'arrêt.
Ce qui est fou, Rachel, c'est que tu racontes, et d'ailleurs, on en revient toujours au sujet de l'argent. Tu dis ceci, une bonne vidéo sur les réseaux sociaux rapporte plus qu'un titre national. Concrètement, ça veut dire quoi?
Concrètement, ça veut dire qu'une photo, une interview dans des magazines spécialisés et une vidéo, évidemment, qui tourne sur les réseaux sociaux vaut plus cher et plus, j'allais dire, bankable qu'un titre, puisqu'ils gagnent de l'argent en remportant des compétitions, mais peut-être pas autant qu'en étant dans les magazines qui comptent ou dans des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux.
Moi, j'avais l'impression que le skateboard, c'était vraiment à la mode, justement, dans les années 80, quand nous, on était gamins. Mais ça revient, et puis j'imagine qu'en effet...
Ça revient bien, ouais.
L'effet JO de Tokyo, où là, ce sera une discipline sûre et certaine, et sans doute peut-être à Paris, va redonner encore un coup de boost au skateboard. J'ai vu aussi que les Vans, les baskets des skateurs, étaient à la mode cette année. On avait eu les Stan Smith, qui étaient à la mode ces dernières années.
Exactement.
Bon, il y a aussi les Nike, hein, tout, on cite plusieurs marques. Mais
oui,
j'ai vu que les Vans, c'était très à la mode cette année.
Ouais, et puis Vans, en fait, c'est comme Nike Skateboarding, pour pas les citer, et Adidas, c'est l'une des marques qui a le plus grand nombre de skateurs sous son aile. Ils ont une grosse équipe de skate, en fait, qui sponsorise pour participer à des compétitions. Et Vans donne aussi un coup de main au skateboard de Cosa Nostra à Shell, qui va accueillir les Vans Series cet été en août.
Bon, ben nous, on va acheter des baskets. Sylvain, tu ranges le vélo pliable avec lequel tu vas au travail
fini.
Et tu vas sortir le skate. Ça prend une place en plus.
Et on devient supporter de Charlotte Hymn.
Et voilà. Puis on va essayer de faire aussi bien cracher le prêtre.
Ça marche.
Salut,
Rachel.
Et abonnez-vous à son compte. Ah bah, à son compte Facebook.
Bah, il faudrait déjà que j'ai les réseaux sociaux. Mais bon, un jour ou l'autre. Mais Sylvain va le faire, c'est promis.
On va d'abord t'acheter un skate.
On va d'abord m'acheter un skate, après on verra. Merci, Rachel. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
RTL, en direct de l'équipe,
Éric Silvestro.
Exceptionnellement, pas de une de l'équipe ce soir, parce qu'on apprend à l'instant une nouvelle qui nous rend triste. Johan Offredo de l'équipe Wanty a chuté dans le Grand Prix de Denain sur les secteurs pavés. Il a été hospitalisé dans un état grave. Plus de nouvelles évidemment sur l'antenne de RTL dès que nous en aurons dans le journal L'équipe aussi demain matin. Courage à lui. Espérons que les blessures ne sont pas trop graves.